Interview. 1. Interview.
Okay, the bird.
L'interview du jour.
Bonjour, interview toujours aux rencontres de l'écologie avec face à moi Madame Anne Gauthier. Bonjour.
Bonjour.
Anne Gauthier, vous êtes membre ou au moins du moins de toutes et tous migrants.
Oui.
Et vous êtes ici pour un colloque ou du moins un débat autour de construire un territoire accueillant. Alors on peut peut-être vous présenter aussi auparavant avant d'aborder le sujet.
Alors je suis porte-parole de l'association Toutes et Toutes Migrants à Briançon. Mais justement, comme la table ronde s'intitule « Construire un territoire accueillant », je viens aussi parler pas seulement de l'association Toutes et Tous Migrants, mais de tous les collectifs, toutes les organisations du Briançonnais qui coopèrent pour justement faire du Briançonnais un territoire accueillant. Alors il ne s'agit pas de donner le Briançonnais en exemple, sûrement pas, mais au contraire de partager notre expérience, puisque ça fait 10 ans à peu près, et partager notre expérience pour qu'on tire ensemble les leçons de ce qu'on a fait depuis 10 ans.
Et donc vous êtes ici pour cette rencontre avec le public, avec ce thème, construire un territoire accueillant. Donc un territoire, quel sens peut-on lui donner et puis quelle étendue?
Alors, quel sens donner au territoire? Pour moi, un territoire, c'est un endroit où on vit, où on est plusieurs à vivre. Et quand je dis plusieurs, c'est plusieurs types de personnes. Alors, le Briançonnais est particulier puisque c'est la frontière franco-italienne. On est à 20 km de la frontière. Le territoire comprend la frontière, enfin, plus exactement, s'arrête malheureusement à la frontière. Et donc, c'est particulier puisque toutes les personnes qui tentent d'arriver en France et qui malheureusement tentent d'arriver et n'y arrivent pas toutes parce que les frontières sont fermées quand même, je vous le rappelle, forcément on a été obligé de s'organiser, pas du tout pour faire passer les personnes, je le dis et je le redirai, parce que les personnes qui ont traversé le désert, la Méditerranée, qui sont arrivées à pied par la route des Balkans, qui ont réussi à pas se noyer en Méditerranée, elles ont besoin de personnes pour passer. Voilà. Par contre, nous, ce qu'on fait, c'est de l'accueil et de l'accueil inconditionnel. C'est-à-dire qu'une fois que les personnes ont passé la ligne officielle de séparation entre deux États, nous, on les accueille. Donc, il y a le collectif de réduction des risques en montagne qui fait de la réduction des risques en montagne, comme son nom l'indique. C'est-à-dire qu'on essaye de trouver les gens avant qu'ils se noient dans la rivière ou qu'ils meurent gelés ou qu'ils tombent d'une barre rocheuse. Ensuite, on les accueille au refuge solidaire. Où là ils ont la possibilité de dormir, de manger, de se laver, de se reposer et puis de se soigner aussi puisqu'il y a un local médecin du monde et puis ensuite de l'aide au séjour ou de l'aide à continuer la route puisque une grande partie n'a pas du tout l'intention de rester à Briançon mais a envie de continuer la route et voilà, c'est ce qu'on appelle un territoire accueillant, c'est on accueille qui vient. Et sans faire de tri, sans décider que ceux-là, ils sont étrangers, ceux-là, ils sont locaux, on s'en fout absolument, que ça soit clair. On vit tous ensemble sur un territoire. Et d'ailleurs, il n'y a pas ceux qui arrivent et nous, il y a faire vivre un nous. Et on ne fait pas ça parce qu'on est des gentils blancs qui tendent la main aux pauvres exilés. On est là parce qu'on croit à un certain type de société plus juste, plus équitable. Et donc, c'est ça pour moi, faire un territoire, c'est faire ensemble.
Justement, en parlant de société, vous vous y trouvez encore de belles perspectives quand même, de partenariat.
Alors, de belles perspectives tout court, non, c'est une catastrophe. Il n'y a qu'à voir, je ne sais pas vers où on va, mais justement, en réponse à cette espèce d'avenir sombrissime qui nous pend au nez, oui, des perspectives de partenariat, oui. C'est ça, pour nous, c'est vraiment ça, un territoire accueillant, c'est justement tisser des liens avec toutes les personnes qui refusent d'aller dans le mur, qui refusent que, en gros, pour être clair, l'extrême droite arrive au pouvoir dans pas longtemps, et pas seulement en France, mais dans toute l'Europe, voire dans le monde entier. Et c'est ça pour nous, être territoire accueillant, c'est aussi montrer que c'est possible, montrer que si on accueille des gens qui viennent d'arriver, et qui viennent d'arriver clandestinement, parce que les frontières sont fermées, on peut non seulement accueillir, mais on peut vivre ensemble. Et le montrer, c'est déjà essayer de faire barrage à tous les gens dans le credo, c'est la peur de l'autre et la peur de l'étranger, la peur du différent, etc. C'est évident qu'accueillir, c'est accueillir la surprise, accueillir la différence, c'est être déstabilisé, c'est être bousculé dans nos certitudes, dans nos habitudes, etc. Mais c'est ça l'accueil. Et heureusement, heureusement qu'on est tous différents, si on était tous les mêmes, on s'ennuierait à 100 sous l'heure.
Vous parlez de Briançon, hein, de cette lieu, de ce lieu d'accueil. Il y a autour une population. Est-ce que il y a eu un aval rapidement, ou alors il a fallu convaincre et prendre le temps pour ça ?
Alors, à Briançon, c'est très polarisé. C'est-à-dire qu'il y a un grand nombre de personnes solidaires qui soit sont solidaires dans une association ou un collectif constitué, soit qui sont individuellement solidaires. Je rends hommage en particulier à tous ceux et celles qui font la cuisine, font la vaisselle, font la lessive au sein du refuge solidaire, hébergent à titre individuel, parce que les personnes qui arrivent et qui sont plus vulnérables que d'autres, au lieu d'être hébergées au refuge solidaire, sont hébergées plutôt chez des particuliers. Donc tout ça, c'est toute une population solidaire qui construit ensemble un territoire accueillant. Mais il y a aussi, en particulier la mairie de Briançon, l'actuelle mairie, en espérant très fort qu'elle change dans 2 mois, qui est radicalement opposée à tout ce qu'on fait, qui va jusqu'à détruire un monument aux morts qu'on avait construit il y a 2 ans au moment de la commémoration des morts des frontières. On avait construit un petit cairn, une pyramide de pierre avec les noms des personnes qui sont mortes ici, qui sont mortes à la frontière franco-italienne à Briançon. La mairie l'a fait détruire. L'a fait détruire au bout de 2 mois au prétexte qu'on n'avait pas demandé l'autorisation. Mais honnêtement, tous les chemins de montagne sont parsemés de ces petits cairns ou de ces petits bouquets de fleurs. Et même au bord des routes, il y a des petits bouquets de fleurs pour marquer qu'à cet endroit-là, quelqu'un est mort. Qui oserait détruire ces petits monuments aux morts ? Sauf que là, ce sont des morts exilés, ce sont des morts qui n'étaient pas de chez nous. Et la mairie de Briançon a détruit ce monument aux morts. Et comment c'est possible ? Enfin, c'est de l'ordre de la profanation.
Je parlais de cet aspect humain de la population proche de ce lieu d'accueil. Il y a aussi les médias qui sont colporteurs de ce malaise montant. Est-ce que pour vous, il y a l'importance de garder le contact entre les humains, entre soi, sans passer par d'intermédiaires numériques ou médiatiques ?
Ah ben c'est même pas capital, c'est vital. C'est vital, on ne peut pas faire autrement. Je veux dire, ce que les médias mainstream diffusent, c'est simplement ce qu'on entend le plus. C'est-à-dire, c'est le discours majoritaire qui est répercuté. Et malheureusement, le discours majoritaire, il est envahi par les médias d'extrême droite, hein, les chaînes Bolloré et consorts. Et on a l'impression, parce que c'est souvent répété, on a l'impression que ça devient vrai. Plus on répète quelque chose, plus on a l'impression que c'est vrai, mais pas du tout. Et puis surtout, cette espèce de discours sur les étrangers, sur l'autre, etc., c'est un discours de trouillard. Pour moi, l'extrême droite, ce sont des trouillards. Ils ont peur, mais peur de quoi ? Ils ont peur d'être dépossédés. Alors de quoi ? De leurs privilèges ? Bah oui, bah ça serait bien de les partager, les privilèges. Ils ont peur d'être dépossédés de leurs petits précarés, de leur tradition, de leur histoire. Mais c'est n'importe quoi. Je veux dire, l'histoire d'un pays, c'est vivant. Un territoire, pour reprendre le mot, c'est vivant. Et si c'est vivant, eh ben ça évolue. Un territoire qui n'évolue pas, ça devient un musée, ça se sclérose et ça finit par mourir. Et c'est vrai d'un territoire, c'est vrai d'une association, c'est vrai d'un pays, c'est vrai d'un collectif, c'est vrai d'une société. Une société qui ne se renouvelle pas, qui ne change pas, qui ne change pas ses lois, qui ne change pas ses modes de fonctionnement, elle se sclérose. Et pour moi, l'extrême droite, les fascistes, tout cela, là, toute cette bande, ce sont simplement des trouillards. Ils ont peur, ils sont accrochés à leurs habitudes, à leur sacro-sainte sécurité. Et c'est ça qui fait que c'est leur discours majoritaire. Et en face de ça, nous, on est là pour dire mais non, on accueille la nouveauté, on accueille les nouveaux, la nouveauté. On ne sait pas ce que ça va donner, mais tant pis, on a envie de voir ce qui va se passer. On n'a pas envie d'être dans l'habitude et la répétition permanente.
Justement, l'extrême droite, c'est cette nécessité d'avoir un chef. Est-ce que c'est donc un groupe de gens qui sont dominés et qui souhaitent être dominés ? Et peut-être, par récréation, ils ont ce besoin aussi de dominer autre.
Pour moi, c'est exactement la même chose. C'est le besoin de sécurité. Si on est, c'est même pas être dominé, je pensais être guidé. Je ne sais pas si quelqu'un a envie d'être dominé, j'en sais rien. Mais d'être guidé, oui. Et c'est ce sacro-saint besoin de sécurité qui fait que si on vote pour quelqu'un qui a l'air d'avoir de l'autorité, qui a l'air d'être un chef, eh ben, on va pouvoir se reposer sur lui. On va pouvoir être en sécurité. On va pouvoir penser à autre chose. Et on le laisse décider. Et c'est exactement le contraire. Je veux dire, nous, sur Briançon, mais ailleurs, partout, on fonctionne en collectif, en collégial, en cohésion, tous les co que vous voulez, co étant, ça veut dire ensemble. Et non, il n'y a pas de chef, pourquoi ? Ça sert à quoi un chef, à part de prendre le pouvoir ? Mais s'il y a quelqu'un qui prend le pouvoir, c'est bien parce qu'il y en a d'autres qui lui ont donné. Personne ne peut prendre le pouvoir s'il n'y en a pas qui sont là pour leur donner. Donc on est vraiment aussi là-dessus dans la construction d'un territoire accueillant. On reste très attentif et attentive à tous les rapports de domination, y compris ceux plus ou moins invisibles, y compris ceux plus ou moins assumés, plus ou moins conscients. Et c'est ça aussi qui fait un autre type de société, moins autoritaire justement, moins fliqué.
Vous parliez donc de ce préfixe co. Est-ce que vous évitez justement un peu ce suffixe ist en ist ?
Oui, on évite tous les extrémistes, droits de l'homiste et anarchistes et autres ist. Les no borders ne sont pas en ist, mais on s'en réclame. En fait, tout ça, c'est des étiquettes. Tout ça, c'est des étiquettes qu'on nous colle quand on pense que c'est nous, les solidaires, qui sommes taxés de terroristes, encore un ist, parce que on fait respecter la légitimité et pas le droit, parce qu'on nous oppose le droit. Mais d'abord, à la frontière en tout cas, c'est l'État lui-même, les forces de l'ordre, envoyées par l'État, qui ne respectent pas les lois de l'État. C'est-à-dire que c'est l'État qui ne respecte pas ses propres lois. Et après, c'est nous qui sommes poursuivis en justice, simplement parce que nous, on essaye d'éviter qu'il y ait des morts et des blessés en montagne. Je veux dire, il y a quand même une aberration totale. Les forces de l'ordre à Briançon, il y a 5 corps de métiers différents. Il y a la gendarmerie, il y a la police de l'air et des frontières, il y a l'armée, etc. etc. Et il y a la douane, évidemment. Et ils ont des armes. Enfin, ils ont des jumelles à infrarouge, ils ont des drones depuis la Border Force, ils ont des quads qui vont partout sur les pistes de nuit, etc. Nous, on n'a rien. On n'est pas armés. La seule arme qu'on a, c'est notre détermination à construire une société beaucoup plus solidaire. Point barre. Et on ne peut pas nous reprocher à nous de faire du mal. Parce que c'est ça aussi. Qu'est-ce que c'est qui est légal par rapport à ce qui est légitime ? Ce qui est légitime, c'est ce qui fait du bien. Ce qui est légal, c'est ce qui respecte la loi. Mais la loi, on peut faire voter n'importe quelle loi. Je rappelle que l'apartheid, en Afrique du Sud, en Amérique aussi d'ailleurs, c'était des lois. Il fallait les respecter. Mais une loi qui crée une différence entre deux groupes humains, elle n'est pas légale. Je m'en fous. Enfin, elle n'est pas légitime en tout cas. Qu'elle soit légale, ce n'est pas important. L'État fait voter. C'est justement cette histoire de ce que vous disiez tout à l'heure. On vote pour quelqu'un, puis après, il se débrouille. C'est lui qui fait. Mais non, il ne se débrouille pas. On est là. Et c'est à nous aussi de faire la loi, c'est-à-dire de crier haut et fort ce qui est légitime pour nous. Et ce qui est légitime, c'est de créer une égalité de droit. Et donc, moi, je passe parce que j'ai la bonne couleur, je suis née du bon côté du monde, je passe la frontière quand je veux, 20 fois par jour si je veux, je ne serai jamais contrôlée. Alors qu'il y a des gens, ils ne peuvent pas la passer, ils sont obligés de crever en montagne parce qu'ils ont essayé de la passer. On est où ? C'est pas assez, voilà, c'est tout, il n'y a rien à accepter.
Et je voudrais revenir aussi sur l'ICE qui opère aux États-Unis en ce moment et auquel je lis qu'en France, il y a un certain regard d'intérêt sur ce que produit l'ICE de la part de l'extrême droite. C'est une inquiétude aussi pour vous ?
Oui, c'est un affolement. Enfin, franchement, moi, je suis terrifiée. Horrifié d'entendre Arnaud Klarsfeld lui-même, le fils de ses parents, qui justifie les rafles, qui utilise le mot rafle, alors que ses parents ont lutté toute leur vie contre les nazis. Et je veux dire, il est bien placé quand même pour savoir familialement ce que c'était des rafles. Il utilise le mot rafle en disant « l'ICE, c'est légitime de faire des rafles, y compris en France, contre toutes les personnes qui ont une OQTF, une obligation à quitter le territoire ». Je suis effarée. Je suis effarée par cette libération de la parole. L'ICE, alors on critique beaucoup les États-Unis et à juste titre, et moi la première. Mais j'ai vu il n'y a pas longtemps, vous vous rendez compte, ils ont même mis en prison un petit garçon de 5 ans. Et ils étaient scandalisés. Mais enfin, on le fait nous aussi. Dans les centres de rétention administrative en France, il y a des familles, il y a des dames de 80 ans, il y a des bébés d'un mois. On le fait d'enfermer des enfants parce qu'ils sont étrangers. Ils n'ont rien fait. Donc je ne vois pas ce qu'on a à envier aux États-Unis. On n'a pas encore une espèce de peroxydé à la tête, mais franchement, on n'a pas beaucoup mieux. Et on espère que... Enfin, il faut qu'on se mette ensemble, là, il faut qu'on résiste. Parce que sinon, on va nous aussi être envahis par ça.
Comment construire donc un territoire accueillant, c'est prendre contact avec la population dans son ensemble?
Alors, c'est pour moi, c'est ce que je vais essayer de te démontrer tout à l'heure, c'est justement toutes les personnes, tous les collectifs, toutes les associations, toutes les organisations qui ont comme objectif d'accueillir les personnes exilées. Il faut qu'elles se mettent ensemble. Parce qu'on n'a pas tous et toutes les mêmes objectifs, on n'a pas tous et toutes les mêmes tactiques de lutte, on n'a pas toutes et toutes les mêmes possibilités d'engagement, ni les mêmes motivations au départ. Il y a par exemple les humanitaires, je mets des gros guillemets, qui font la lessive, la vaisselle, qui font à manger, etc., etc. Et qui disent « Ah, mais moi, je fais pas de politique ». Et puis il y a ceux qui disent « Ah, non, mais moi, je fais pas d'humanitaire, moi, je suis quelqu'un de politique, etc. » Mais bon sang, mais on a besoin des deux. On a besoin de tous ces volets-là. On a besoin de ceux qui viennent une fois par mois faire la vaisselle refuge. Et on a besoin de ceux qui sont toutes les nuits en montagne pour essayer de trouver des gens avant qu'ils meurent dans la neige. Donc il n'y a pas de militants ou de solidaires plus héroïques que d'autres. On a absolument besoin de tout le monde. Et pour moi, construire un territoire accueillant, si on a appelé cette table ronde comme ça, c'est parce qu'effectivement, il faut qu'on s'y mette tous ensemble. Et que plus on est divisé parce que lui, il a des dreads et des tatouages, elle, c'est une vieille dame avec les cheveux gris, un chignon et les lunettes d'un site à la retraite, on ne s'écoute pas. Et je pense qu'il faut impérativement qu'on se rende compte qu'on est tous ensemble pour les mêmes choses et qu'on s'en fout de nos divergences. Je veux dire, les divergences, elles sont à la marge. Elles sont sur, effectivement, les tactiques. Par exemple, les squats. Moi, avec mon look de vieille, un site à la retraite, ce que je ne suis pas, j'ai ouvert des squats. Mais parce que ça me paraît totalement légitime. Il y a des bâtiments publics, je précise publics. Il y a des bâtiments publics qui sont inoccupés depuis des années et il y a des gens qui dorment dans la rue. Je suis désolée, il n'y a pas photo. Les gens qui dorment dans la rue, on les met dans les bâtiments inoccupés. C'est pas compliqué. C'est peut-être pas légal, mais c'est totalement légitime. Et on peut être... On peut être très radical en ayant un look très BCBG et à l'inverse. Donc qu'on arrête aussi de se juger les uns et les autres sur nos looks. Quand on parle de solidarité, on parle d'accueil inconditionnel. Il faut qu'on s'accueille aussi entre nous. Il faut que nous aussi, et qu'on privilégie aussi ce que les gens disent et pas d'où ils parlent. C'est-à-dire, en gros, ce qui est important, ce n'est pas l'étiquette qui est sur le bocal, c'est ce qu'il y a dans le bocal. Moi, j'ai déjà entendu dire « Oh, il y a une telle qui veut venir parler à la conférence de presse. Ah, ouais, non, mais elle est chiante. » Mais on s'en fout, c'est pas ça, c'est un jugement. Ce qui est intéressant, c'est ce qu'elle va dire, cette dame. Elle est chiante ou elle ne l'est pas, mais on s'en fout. C'est parler, se parler et discuter d'argument à argument en évitant les jugements. Et éviter les jugements, ça évite aussi les rapports de domination. Et pour moi, c'est ça, construire un territoire accueillant. C'est d'être ensemble, conscient que si on n'est pas soudés, si on n'est pas liés, si on ne fait pas corps, plus on est divisé, plus en face ils ont gagné. Plus c'est justement les discours de haine et de division qui gagne. Et nous, en face, il faut qu'on soit plus fort, il faut qu'on soit lié, il faut qu'on soit solidaire.
Cette expérience de la maison d'accueil de Briançon, cela existe depuis au moins une dizaine d'années. Quel regard avez-vous depuis cette décennie sur son évolution, et est-ce que cela a permis de créer des liens ou des pensées qui permettent d'être partagées et peut-être aussi de transmettre ?
Oui, incontestablement. C'est-à-dire que tant que ça reste de l'ordre de la théorie, il y a des gens qui arrivent, il y a des migrants, il y a des exilés qui arrivent, mais qu'on ne les a pas vus en vrai, qu'on leur a pas parlé, qu'on leur a pas servi un bol de soupe, qu'on leur a pas fait un lit, ça reste de la théorie. Ça reste... Alors que venir au refuge solidaire, les rencontrer, c'est des gens. C'est étonnant, c'est des gens, c'est des hommes, c'est des femmes, c'est des enfants. Et de les côtoyer, de les rencontrer au sens rencontre humaine, ça permet évidemment d'encore plus prendre fait et cause pour eux. Parce qu'on se rend compte de... Quand ça reste des chiffres, il y a des milliers de morts en Méditerranée. Ah ben oui, c'est triste. Mais les milliers de morts, ça ne nous parle pas. Le terme milliers de morts ne nous parle pas. C'est trop gros. Alors que si on rencontre un tel, une telle, qu'on parle avec... ça y est, c'est quelqu'un. Et à partir de là, bien sûr, qu'on est plus impliqué. Et il y a beaucoup de gens à Briançon qui disent... Bah, moi, je n'avais pas tellement l'intention, j'avais pas prévu de m'engager, mais d'avoir rencontré un tel sur le bord du chemin, pieds nus, tellement il avait mal aux pieds, et de l'avoir amené au refuge, eh bien oui, j'ai été obligée de m'engager. Et c'est ça qui effectivement, le refuge, les refuges solidaires, puisque du coup, il y a Briançon, mais il y a aussi des hébergeurs qui font partie de refuges solidaires, ça a créé ça a ancré ces histoires de migration dont on nous rebat les oreilles dans la réalité. Et on se rend compte que ce sont des gens comme vous et moi, avec des familles, avec des histoires, certains extrêmement traumatisés parce qu'ils ont vécu sur la route. Donc bien sûr que ça donne envie de s'engager. Et bien sûr que Refuge Solidaire a permis à beaucoup de gens de s'engager et de s'engager au quotidien.
Comment être informé de ce qui se passe dans ce lieu d'accueil qu'on peut rappeler ?
Alors oui, alors Refuge Solidaire au pluriel, il y a un site dont vous tapez Refuge Solidaire au pluriel dans n'importe quel moteur de recherche, vous tombez sur le site et là vous avez tout, comment aider, comment venir passer quelques jours, toutes les dernières actualités. Il y a aussi le site de Toutes et Tous Migrants, alors vous tapez soit Toutes et Tous Migrants, soit Tous Migrants, puisqu'on vient de changer de nom il n'y a pas longtemps, et c'est pareil, vous avez toutes les actualités de la frontière, mais aussi du Refuge Solidaire, de tous les collectifs solidaires. Et j'en profite quand même, parce que c'est dans pas longtemps. Il y a la commémoration, le 6 février. Donc tous les 6 février, c'est la 14e année consécutive. Dans énormément de pays, maintenant, on commémore tous les morts des frontières. Et donc, à Briançon, il y aura 3 jours d'affilée, le 5, le 6 et le 7. Mais dans énormément d'endroits... plutôt des endroits frontaliers, mais pas seulement, il y a la commémoration. Donc vous tapez « commémore action 6 février » et vous tombez sur tout le programme qu'il y a dans les villes les plus proches de vous.
Vous disiez donc « toutes et tous migrants », c'est le nouveau dénominatif de cette association.
De tous migrants, oui, on a féminisé.
Qu'est-ce qui vous a incité à changer? Est-ce que c'est aussi mettre en évidence qu'il y a une parité aussi dans l'exil, la migration?
Absolument, ça fait très très longtemps qu'on aurait dû le faire, mais bon, il fallait une assemblée générale extraordinaire pour changer les statuts, etc. Mais ça fait très longtemps qu'on aurait dû le faire, parce qu'effectivement, on voit toujours dans la presse, dans la télé, partout, on voit les migrants, et on voit des hommes, et on voit des hommes jeunes. Et c'est tout. Les femmes, on les voit pas. Les enfants, on en voit de temps en temps pour faire pleurer, mais ça dure pas longtemps. Le petit Island qu'on a trouvé sur une plage, ça a fait pleurer pendant 15 jours. Après, on a complètement oublié. Mais les petits Island sur les plages, il y en a tous les jours. Il y en a tous les jours. Donc, on a changé le nom parce que pour rappeler qu'il y a 51% des personnes exilées qui passent qui sont des femmes. Parce qu'il y a 51% de femmes sur la planète. Et bien sûr qu'il y a autant de femmes que d'hommes qui passent. Et surtout, ce qui est grave, c'est que comme on n'en entend pas parler, on ne sait pas où elles sont. On ne sait pas par où elles passent. On sait par quoi elles passent. Parce qu'on sait bien qu'en Libye, par exemple, elles sont quasiment toutes violées. Il y en a vraiment très peu qui passent à travers. Et pas seulement en Libye. Hein. C'est vrai aussi dans le désert, etc., sur la route. C'est vrai dans les bateaux aussi. Donc, merci de me reposer cette question. Parce que oui, il y a 51% de femmes qui passent parmi toutes les personnes exilées.
Il y aura cette conférence, débat, avec Morgane Paré, qui est juriste de l'association Espace. C'est un partenaire pour vous aussi.
Alors, Espace, c'est un centre de ressources juridiques. Donc, c'est basé à Marseille. C'est une association qui emploie des juristes qui font à la fois des formations pour tous les travailleurs sociaux qui sont amenés à être en contact avec des personnes exilées, et aussi pour tous les collectifs militants, solidaires, engagés, pour dire le droit. Parce que si on ne le connaît pas, on ne sait pas à quoi on a droit. En particulier en tant que solidaire, est-ce qu'on a le droit d'héberger, par exemple? Est-ce qu'on peut être poursuivi, etc., etc. Et les personnes qui arrivent, à quoi elles ont droit? Quel est leur statut? Par exemple, les refoulements qu'on constate tous les jours, surtout en ce moment à la frontière à Montgenèvre, au-dessus de Briançon, c'est totalement illégal. La police de l'air et des frontières refoule des familles entières, des personnes. C'est totalement illégal. Et en connaissant le droit, on peut aussi négocier justement avec la préfecture en disant « Mais enfin, monsieur, vous êtes représentant d'un État et vous donnez des ordres qui ne respectent pas les lois de l'État que vous représentez. On est où ?» Et c'est important de connaître le droit. Donc Espace fait des formations pour tous les professionnels du droit qui sont amenés à rencontrer des étrangers, mais aussi pour tous les collectifs militants. Donc c'est un centre de ressources. Pareil, vous tapez Espace et vous tombez dessus. Donc ils sont basés à Marseille, mais ils interviennent dans toute la région PACA.
Et puis il y a M. Beaufort, hein, président de l'association Val-de-Drôme Accueil Réfugiés, un peu à l'image de ce qu'on a ici avec le RIDAR. Hein.
Alors voilà, alors donc moi ici ce sont des gens que je ne connais pas. Effectivement, il y a Jean Beaufort qui doit intervenir. Je ne sais pas s'il est là. Voilà.
Mais votre parole est déjà amplement suffisante. Et puis, il y a l'association TRAM, que l'on a déjà reçue.
Hein, alors voilà, il y a la TRAM, il y a le RIDAR, etc. Ici, dont j'ai entendu parler, mais évidemment que je ne connais pas, puisque je ne suis quand même pas du secteur. Mais de toute façon, le Diwa est aussi un territoire d'accueil depuis longtemps. Et de toute façon, il y a pas mal de connexions, puisque je sais qu'il y a pas mal de gens qui viennent au collectif de réduction des risques en montagne, qui viennent du Diwa. Et aussi au refuge solidaire, il y a aussi pas mal de gens qui viennent du Diwa.
L'administration est aussi un gros écueil hein, pour le migrant et c'est un lourd combat à mener aussi pour les soutenir.
Alors, c'est un gros sujet. Alors, en particulier, puisque moi, au départ, je suis soignante, et donc c'est un peu mon regard au départ. Les personnes qui arrivent, une fois qu'elles ont franchi la frontière et qu'elles sont arrivées, pensent que ça y est. Je pense que ça y est, elles vont pouvoir baisser les bras, elles vont pouvoir surtout se reposer. Elles vont pouvoir baisser la garde, pas les bras, mais baisser la garde et elles vont pouvoir se reposer. Alors que non, c'est le début d'un autre parcours du combattant, qui n'est pas le même, c'est sûr, c'est pas le même. Mais d'abord, il faut trouver un hébergement et c'est pas gagné. Et heureusement qu'il y a tous les solidaires et toutes les associations pour faire de l'hébergement, parce qu'il y a quand même encore des milliers de personnes à la rue. Et puis, c'est un parcours du combattant, la préfecture. Alors, les préfectures, parce que chacune à ses modes de fonctionnement. Normalement, ça ne devrait pas être le cas, mais c'est le cas. Les préfectures font tout pour décourager les gens, bien sûr. En plus, maintenant, avec la dématérialisation, c'est-à-dire qu'on n'a plus affaire à quelqu'un au guichet. Et les guichets, il y avait des gens sympas et des gens beaucoup moins sympas. Mais maintenant, c'est dématérialisé. C'est tout par Internet, etc. Donc déjà, il faut y avoir accès. Il faut être accompagné par quelqu'un qui sait se débrouiller dans cette espèce de jungle administrative. Et puis, on envoie des demandes. Ah oui, là, il manque un papier. Mais je vous l'ai envoyé déjà 3 fois. Ah oui, mais il manque encore, etc. Et ça retarde, et ça retarde, et ça retarde. Et nous, côté santé mentale, on se rend compte que il y a beaucoup de gens qui ont tenu pendant des mois, parfois un an ou deux, sur la route. Et une fois qu'ils sont arrivés, où ils pensent qu'ils vont pouvoir se reposer, quand ils se rendent compte que c'est pas gagné et qu'il va encore falloir se battre, c'est à ce moment-là qu'ils lâchent, c'est à ce moment-là qu'ils craquent. Et on a vraiment des grosses décompensations, même si les gens sont arrivés. Et on pourrait dire, bon ben ça y est, la Libye elle est derrière, le désert il est derrière, la route des Balkans elle est derrière, la mer elle est derrière. Ben ouais, mais d'abord tous ces parcours-là, ça fragilise. Et ensuite, ce découragement de constater que non, c'est pas fini, qu'il va encore falloir se battre, mais cette fois contre, on sait même pas qui, contre des tonnes de paperasses, quand on dit que ce sont des gens sans papier. Mais franchement, il faut avoir accompagné quelqu'un pour savoir les tonnes de papier qu'ils ont, mais il n'y a jamais le bon, curieusement. Donc c'est vrai que les préfectures font tout ce qu'il faut pour décourager. Et c'est aussi un énorme, c'est aussi une bataille. Et c'est aussi, en tant que solidaire, on est aussi obligé d'être extrêmement patient et de pouvoir aider toutes ces personnes à dire « oui, tu vas y arriver ». Mais peut-être que c'est dans 3 ans, dans 7 ans. Moi, j'ai accompagné des gens qui ont mis 10 ans à avoir un titre de séjour. 10 ans. Et pendant 10 ans, ils vivent. Et je connais une avocate qui a dit un jour à un des jeunes que j'accompagnais, qui lui a dit « mais vous êtes beau, vous travaillez, vivez quoi. Vous n'avez pas besoin de papier, vivez. Vous êtes vivant et c'est tout ce qui compte. » Et vraiment, c'est un superbe message parce que, ok, vous n'avez pas de papier, ça serait mieux que vous en ayez, on est d'accord. Mais nous, on est là. Les solidaires, on est là. Vous avez des papiers, vous n'en avez pas, on s'en fout. C'est pas ça qu'on regarde. Et effectivement, ça fait partie des bagarres qu'il faut mener.
Cette maison d'accueil, c'est aussi un lieu d'écoute pour ces personnes. Il y a peut-être parfois le problème de la langue pour se faire comprendre. Pour cela, vous vous dotez peut-être de traducteurs. Et qu'est-ce que vous en ressortez de cette écoute? Est-ce qu'il y a des problèmes récurrents, notamment de leur pays d'origine? Qu'est-ce qui les a amenés à en partir? Et est-ce que la France, en quelque sorte, je ne dis pas dans tous les pays, mais a une certaine responsabilité de ce flux?
Ah, mais la France a une responsabilité écrasante. Pour plusieurs raisons. Alors, elle a une responsabilité aujourd'hui, actuelle, en tant qu'État de l'Europe, de soutenir tout le système de fermeture des frontières. S'il y a autant de morts en Méditerranée, c'est bien parce que les frontières de l'Europe sont fermées. Et si les frontières de l'Europe sont fermées, c'est un choix politique des pays européens. Donc bien sûr que le financement de l'agence Frontex, qui est chargée de surveiller, c'est une responsabilité écrasante. Si les frontières étaient ouvertes, si tout le monde avait la liberté de circulation comme nous, Européens, nous l'avons, il n'y aurait pas tous ces morts. Donc ces morts sont clairement de la responsabilité des États, et la France aussi en bonne place. Ensuite, la France a aussi une responsabilité plus historique, c'est-à-dire que si les personnes de Guinée, du Sénégal, du Mali, de Côte d'Ivoire, du Burkina viennent en France et de l'Algérie et du Maroc et de la Tunisie, c'est bien parce que ces pays-là ont été colonisés. Et s'ils ont été colonisés, ils parlent français. Pourquoi ils viennent en France? Parce qu'ils parlent français. Évidemment, vous devez partir de votre pays d'origine. Vous allez où? Vers un pays où déjà vous parlez la langue. C'est quand même bien plus facile de s'installer dans un pays où on comprend ce qui se passe et où on parle et on peut se faire comprendre. Donc bien sûr que la France a une responsabilité en tant qu'État colonial. Bien sûr. Et d'ailleurs, ça nous est... Quand vous parlez des récits qu'on peut entendre, ça nous est régulièrement envoyé dans les gencives. Mais vous êtes venus. Vous nous avez colonisés. Pourquoi nous, on n'a pas le droit de venir? Et bien sûr, et moi, j'ai rien à répondre à ça, mais rien. Rien. Je peux juste dire je suis désolée, quoi. Mais je ne peux rien répondre à ça. Et quand on récit, au récit qu'on entend, c'est tous les récits qu'on entend beaucoup, qui sont connus maintenant. Et là aussi, l'État a une responsabilité. Personne aujourd'hui peut dire « on ne savait pas ». Personne a le droit de dire « hop, je ne savais pas que c'était grave à ce point-là ». C'est faux. C'est plus possible de dire ça. Et donc, tous ces récits, ce sont des récits de pays en guerre où il y a une insécurité et où il faut absolument fuir parce qu'on est militant ou parce qu'on est opposant, etc. Soit d'immenses misères. Et on ne voit pas pourquoi on accueillerait des gens qui sont en danger de mort parce que l'État dont ils dépendent les met en danger de mort on n'accueillerait pas ceux qui sont en danger de mort à cause de la misère extrême. Enfin, je vois pas la différence. On essaye d'échapper à la mort et point barre. Et quand au récit que nous, on entend... c'est un petit point d'attention, c'est que c'est très difficile pour nous, les écoutants, d'avoir en permanence ces récits-là. Et ça fait vraiment partie du travail qu'on fait collectivement, donc avec la plateforme qui réunit tous les acteurs et les actrices du Briançonnais, et spécifiquement Médecins du Monde, sur la santé mentale des personnes qui arrivent, mais aussi sur la santé mentale des écoutants et des écoutantes, parce que, et là je suis bien placée pour le dire, c'est extrêmement lourd d'entendre en permanence des récits de viol, des récits de torture et des récits de naufrage. Parce que les personnes qu'on rencontre, il y en a qui vont bien. Honnêtement, je le dis aussi, il n'y a pas que des victimes. Ce n'est pas vrai, ce ne sont pas des victimes. Ce sont des gens très costauds. Mais il y a des gens qui sont survivants. Survivants d'un naufrage, par exemple. Et ceux-là, ils sont traumatisés à vie. Et certains sont amputés de leurs proches à jamais. Donc nous, on reçoit ça aussi, en tant qu'écoutant et écoutante. Et ça fait partie des choses auxquelles on doit rester attentif, attentive, si on ne veut pas, nous, s'épuiser et se casser la figure à un moment.
La parole a nécessité de temps, d'un temps pour cela. Est-ce que vous organisez au sein de ce lieu des rencontres avec la population ou aussi des personnes actives ou actrices de l'entraide?
Alors, c'est en train de se mettre en place sur Briançon. Alors, on organise au sein de refuges solidaires, enfin, c'est Médecins du Monde qui s'en charge, des temps d'écoute pour les personnes qui arrivent. Quand on fait des soins, puisqu'il y a des personnes qui ont des ampoules, des blessures dues à leur longue marche, etc. Donc, souvent, à l'occasion de soins, parce qu'on arrive dans l'intimité des personnes, on touche les personnes. Donc, cette intimité, cette proximité ouvre la parole. Et là, ben, évidemment, on écoute, c'est le moment. Mais on organise aussi des temps pour les solidaires, donc des temps de débriefing pour les solidaires, en particulier les solidaires qui font des maraudes en montagne, parce que ça peut être très très dur aussi, c'est très stressant aussi de jouer aux gendarmes, aux voleurs avec la PAF. Et puis, c'est toujours difficile si la parole des personnes qui arrivent n'est pas spontanée, c'est toujours difficile de la solliciter. Parce que ne pas dire, ne pas raconter, ça peut être aussi une protection. Et dire, raconter un naufrage, raconter un viol, etc., ça peut réactiver aussi la souffrance, ça peut réactiver le traumatisme. Et donc, on fait très attention à ne pas réactiver. C'est-à-dire, si quelqu'un a envie de parler, mais qu'il y aille, ou qu'elle y aille, et qu'on entende, et qu'on écoute, et on est là pour ça. Par contre, on ne va pas solliciter si on sent bien que la personne, ça va la déstabiliser. On n'est pas là pour ça. Et si la personne, c'est dans 3 ans ou dans 10 ans qu'elle est prête à raconter, eh ben, ça sera dans 3 ans ou dans 10 ans. On n'a pas, nous, à la solliciter. Par contre, ce qu'on fait, c'est du recueil de témoignages. C'est-à-dire que quelqu'un qui parle et qui parle volontiers, qui a l'air d'un, voilà, pour qui c'est plus facile, on lui pose la question. Est-ce que ça vous embête si je prends des notes? Ou est-ce que ça vous embête si je vous enregistre? En général, on n'enregistre pas, ça peut être impressionnant. Mais est-ce que ça vous embête si je prends des notes? Est-ce que ça vous embête si je prends des notes? Parce que ça va nous servir pour notre plaidoyer. C'est-à-dire, on recueille des témoignages de refoulement à la frontière, de ce qui se passe sur la route, etc. Pour documenter tout ça et pour pouvoir justement aller en préfecture en disant voilà ce que vous créez en fermant les frontières. Voilà ce que vous créez. Et donc, le recueil de témoignages fait partie du gros travail qu'on a à faire à Briançon.
L'entretien pourrait durer encore très longtemps, mais le temps nous est imparti. En tout cas, je vous remercie, Anne Gauthier, de nous avoir donné un peu de votre temps pour nous parler donc de cette association Toutes et Tous Migrants. Juste une question, qu'est-ce qu'on peut définir dans le mot « migrant » ?
C'est une grande question. Tout le monde migre. Quand on part en vacances avec notre camping-car ou la caravane derrière, on est un migrant. Donc ça ne veut rien dire. Le terme plus juste serait « personne en situation de migration », ce qui est un petit peu plus long. Exilé, moi, c'est un mot que j'utilise un peu parce que exilé, c'est le point de vue de la personne qui bouge, alors que migrant, c'est le point de vue de nous qui sommes là et qui les voyons arriver. Exilé, c'est le point de vue de celui qui est parti et donc qui est loin de chez lui ou de chez elle. On va passer à la fin de la table ronde un petit poème qui dit « Je ne suis pas un migrant, je ne suis pas un exilé, je ne suis pas un sans-papier, je suis juste un homme libre. » Bon, c'est un homme qui parle. « Je suis juste un homme libre et je vis sur la terre et mon pays, c'est la planète. » Et voilà. Et c'est exactement ce pourquoi on se bat. C'est qu'on est tous sur la même planète.
Merci.
Merci
bonne soirée.
Merci, bonsoir.